Voilà, donc aujourd'hui on va parler du tantra jeunes adultes. Bienvenue à ces pionniers aujourd'hui qui démarrent quelque chose de nouveau pour moi. J'ai eu l'intuition d'initier ces groupes. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est peut-être vous qui allez me le dire. Je suis très joyeux de vous accueillir, c'est quelque chose de nouveau, et en même temps j'ai un petit peu peur, mais pas trop. J'ai assez confiance finalement, c'est l'état dans lequel je suis maintenant. Et en vérité, ce tantra jeunes adultes, c'est le même que le tantra tout court. Hein. Simplement, il est réservé à une tranche d'âge pour que... pour des raisons aussi culturelles que les jeunes de 18, 20 ans, 25 ans ne soient pas en même temps que des adultes de 60 ans, parfois moins, parfois plus. Mais ça ne change pas la réalité de ce que c'est que le tantra et que je vais essayer un peu de vous communiquer lors de cette conférence. Alors, c'est très informel. Moi, je me sens assez à l'aise avec ce que je vais dire, mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires, quand je dis quelque chose, vous pouvez interrompre tout de suite, hein, sans attendre l'espace de questions-réponses, parce que ce que je vais dire après, peut-être s'appuiera sur ce que j'ai dit avant. Hein, donc, ne laissez pas passer quelque chose qui ne soit pas, clair. Voilà, j'ai posé sur l'invitation un certain nombre de questions, mais d'emblée, je pourrais essayer de résumer le tantra en quelques définitions. Il y a plusieurs définitions différentes. Au niveau des mots, tantra, étymologiquement, dans un langage très ancien qui s'appelle le sanskrit, veut dire tissu ou relation, hein, quand les choses s'entremêlent. Une autre définition du tantra que j'aime bien, qui tient en deux mots, c'est tel quel. Tel quel, voilà, tel que je suis. Hein, c'est-à-dire sans artifice, sans rajouter des couches de conditionnement ou sans porter de masque. Être vrai, c'est une dimension fondamentale du tantra. Parfois, je ferme les yeux, hein, vous avez peut-être remarqué, c'est pas parce que je veux pas vous voir, hein, c'est une manière pour moi de trouver l'inspiration, enfin d'écouter plutôt l'inspiration. Donc ça n'a pas d'importance, hein, particulière. Être vrai, c'est peut-être la phrase la plus importante dans le tantra. Peut-être êtes-vous déjà vrai, par moment, et par moment peut-être ne l'êtes-vous pas. Et lorsque nous ne sommes pas vrais, nous montrons à l'extérieur quelque chose qui n'est pas la même chose que ce que nous ressentons à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai commencé à vous dire comment je me sentais. Et si nous maquillons notre vérité intérieure, ce qui se passe, c'est que nous générons un conflit. Nous disons par exemple, nous sommes en colère et puis nous montrons un grand sourire. Pourquoi ce sourire? Peut-être pour être accepté, peut-être pour... être conforme à certaines valeurs, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Hein. Et la différence entre ce qui est montré et ce qui est ressenti dedans, ça génère un conflit, parce que ce n'est pas la même chose. Hein. C'est comme si dedans, il y avait quelque chose qui tirait vers le oui, et puis dehors, quelque chose qui tire vers le non, ou l'inverse. Hein. Et ces deux énergies-là sont opposées, et font du mal, hein, à l'intérieur. Voilà, donc une des bases du tantra, c'est essayer d'être plus vrai que ce que nous sommes déjà. Hein, et on va voir qu'il y a beaucoup de facteurs dans notre vie qui nous incitent à ne pas être connectés vraiment à ce qui nous sommes. Être libre aussi, c'est assez proche de être vrai, mais c'est aussi une direction fondamentale, cultiver la liberté intérieure. C'est quoi la liberté intérieure? C'est, j'ai envie de faire ça, je fais ça. Hein. J'ai envie d'être joyeux, je suis joyeux. J'ai envie de dire oui, je dis oui. J'ai envie de dire non, je dis non. J'arrête de dépendre de l'autre ou des autres pour vivre. Hein. J'arrête de demander l'autorisation à l'autre ou aux autres, ou à la famille, ou à la société. J'essaie d'être moi-même hein, à 100%. Voilà. Et puis dans le tantra, on utilise le couple masculin-féminin, même si le tantra ne s'adresse pas au couple en particulier. Vous n'êtes pas sans savoir que les énergies masculines et féminines sont très complémentaires. Hein. Et donc, c'est énergétiquement parlant, c'est intéressant dans les groupes de tantra, qu'il y ait autant d'hommes que de femmes. Et c'est ce que je m'attache à faire quand je constitue des groupes, hein, pour qu'il y ait un certain équilibre énergétique. Hein. L'énergie d'un homme est plutôt yang, hein, ceux qui connaissent ce mot, avec certaines caractéristiques du masculin. L'énergie d'une femme est plutôt yin, avec certaines caractéristiques du féminin. Et puis, lorsque les deux sont en face, il y a une complémentarité. Parce que dans notre vie, si nous sommes hommes, nous avons comme des qualités qui ne sont pas tellement exprimées, des qualités féminines en nous qui ne sont pas tellement exprimées, et que nous avons envie de trouver chez la femme. Hein. Et quand nous sommes femmes, nous avons des qualités masculines pas tellement exprimées, ça dépend des femmes, hein, bien sûr, mais qui vont être recherchées et trouvées aussi chez l'homme pour être plus complet. En vérité, notre vie essaye d'arriver à une sorte de complétude. Cette complétude, c'est le bonheur. Hein. C'est vraiment l'équilibre parfait, je ne manque de rien. Peut-être on pourrait dire que c'est ça, le tantra. Je ne manque plus de rien qui soit à l'extérieur. J'ai tout dedans pour être heureux, pour être heureuse. Il y a une autre définition du tantra que j'ai entendue il n'y a pas très très longtemps, c'est utiliser le deux pour se rappeler qu'il n'y a pas deux. Utiliser les deux, ça veut dire utiliser l'homme et la femme, pour se rappeler finalement que nous sommes à l'intérieur complets, déjà, hein, que nous sommes déjà complets, mais que parfois il y a besoin de se rappeler ça, ou de développer ce qui n'est pas encore exprimé. Alors, chez un homme, il y a, disons, de la structure. Hein, c'est, on peut dire que dans certaines actions, c'est carré. Mais parfois, le fait que ça soit structuré, c'est très utile hein, pour gérer l'argent, gérer les choses, je ne sais pas moi, administratives. Chez le yang, chez le masculin, il y a la question de l'action. Il y a la question aussi du raisonnement intellectuel. Qui sont assez développés, plus développés. Chez le, il y en a encore plein d'autres, hein, mais je vous dis d'une manière synthétique. Chez la femme, c'est plutôt l'intériorité, l'espace de l'amour, l'espace d'accueil, la douceur, la beauté, la grâce, des choses qu'un homme a besoin d'apprendre ou a besoin de développer parce qu'il ne les a pas naturellement. Lorsqu'il vient au monde, elles sont là, mais elles sont sous-exprimées. Et chez une femme, les aspects de rigueur, marquer le territoire, savoir dire non, savoir dire oui, trancher les choses, sont là, mais ont besoin d'être renforcés. Plus. Et c'est pour ça qu'on utilise le 2 pour se compléter, pour se rappeler que finalement on a tout ça en nous, et quand on a trouvé ça et développé ça, eh bien, le couple initial, il est à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en couple à l'extérieur, mais on arrête de demander à l'autre de faire des demandes qui partent du manque, d'essayer d'obtenir de l'autre quelque chose pour nous rendre plus complets, ce qui fait que l'autre va se sentir parfois soit pas à la hauteur, parce que c'est des demandes qui peuvent le dépasser, ou soit pas capable de vous donner ça. Hein, voilà. Donc, l'idée c'est d'être équilibré à l'intérieur, repérer les conflits. Par exemple, j'ai très envie de faire ça, mais j'ose pas. Donc, ça c'est un conflit. Il y a une énergie qui dit oui, il y a une énergie qui dit non. Il y a une peur en face d'un désir. Et voir qu'est-ce qui nous permet d'être plus vrai avec les vrais désirs, et puis de pas donner toute l'importance aux peurs. Si je donne de l'importance à une peur, en vérité, je la fais grandir. Si j'ai mal au petit doigt de pied, et si je regarde, si je ne considère que cette douleur-là, elle pourra prendre tout l'espace. Je pourrais me centrer seulement là-dessus. mais j'oublie que 99% de mon corps va bien. Bien sûr, le signal de la douleur, il est fort, hein, mais c'est la même chose si j'ai une peur d'être rejeté, et, mais qu'en face de ça, il y a quand même un vrai désir d'aller de l'avant. Si je me centre sur le désir, je vais faire grandir cette envie-là de rayonner qui je suis, de m'exprimer avec mes talents. Et si je me centre sur « Oh, mais ça ne va pas être accepté, on va me dire non, ça ne va pas marcher », voilà, je me sabote d'une certaine manière, et en plus, je fais grandir cet espace de peur, ce qui fait que je peux m'hypnotiser complètement avec ça. Donc dans le tantra, on voit les deux, hein, comme on dit, tel quel, c'est « j'ai envie » et « j'ose pas » ensemble, hein, on les regarde ensemble, on ne met pas « j'ose pas de côté », on n'ignore pas la part de peur qu'il y a, la part de limite, et aussi la part très grande des conditionnements. Hein. Et donc un des buts vraiment importants du tantra, c'est libérer l'esprit de ses conditionnements. Quand je dis l'esprit, c'est le mental, hein, en particulier. Il y a beaucoup de choses en nous qui sont des sortes d'héritages, qui ne sont pas à nous vraiment. Hein. Nos parents nous ont dit « fais ci, fais pas ça ». Hein, c'est moral. Hein, ça c'est bien, ça c'est mal. Traverse dans les clous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Hein. Dis bonjour à la dame, et puis... Et une carrière, fais des études, sois riche, insère-toi dans la société, comme ça, moi je vais être plus en sécurité avec toi. Hein, ou c'est une forme de vie qui est conforme et qui va te rendre heureux. Hein. Donc il y a des choses que les parents, mais pas seulement les parents, les ancêtres nous disent, parce que vos parents aussi ont reçu des conditionnements, et vos arrière-grands-parents ont reçu des conditionnements. Il y a toute une lignée d'ancêtres qui disent « ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Voilà, je vous présente Sweetie, c'est un maître tantrique. Hein. Parce que quand elle a envie de se frotter, elle se frotte et elle ne me demande pas mon avis. Hein. Elle n'a pas peur d'être rejetée en se frottant à ma jambe. Elle le fait vraiment. Et donc elle nous montre ce que c'est que de ne pas réagir avec le mental. Hein. Elle réagit avec le corps directement. Voilà, donc des conditionnements, il y en a énormément, et en même temps, nous sommes capables de faire la différence. Un petit peu plus près du sol. Donc nous pouvons en nous faire la différence entre ce qui est conditionné et ce qui est vrai désir. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Rappelez-vous que dans « envie », il y a les deux mots « en » et « vie ». Hein. Quand j'ai envie, je suis en vie. Et quand je suis dans la peur, il y a quelque chose qui bloque la vie. Hein. La peur, c'est une contraction. L'envie, ou ce que j'appelle le désir, c'est pas seulement « j'ai envie de toi, j'ai envie de... » d'une femme, j'ai envie d'un homme, c'est aussi l'envie de vivre, l'envie de se lever le matin, de faire certaines choses, de boire un jus d'orange, de rester vivant. Hein. Si je n'avais pas envie, si je n'avais pas ce désir-là de vie, je ne sortirais même pas de mon lit le matin. Hein. Le premier pas que vous faites hors de la couette, c'est déjà un désir d'être dans la vie. Hein. Et après, il y a tout le reste. Donc dans le tantra, on apprend à différencier les vrais désirs. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Qu'est-ce qui me rend pétillant? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend à l'aise? Qu'est-ce qui me détend? Et les conditionnements qui enferment un petit peu plus que les désirs. Je ne dis pas qu'il ne faille pas garder certains conditionnements. Certains conditionnements peuvent être justes. Hein, donc il n'y a pas à tout rejeter, mais plutôt à exercer un certain discernement. Qu'est-ce qui me va dans ce qu'on m'a légué? Et qu'est-ce qui n'est pas adéquat? Qu'est-ce que je sens qui est de nature plutôt à me limiter, hein, dans mon expression de vie? Donc le tantra pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Hein, peut-être vous êtes-vous déjà posé, peut-être allez-vous déjà avec vos propres valeurs dans le monde, Dans ce cas, c'est magnifique. Et peut-être êtes-vous aussi, en même temps, sous l'emprise de certaines choses qui se font et certaines choses qui ne se font pas. Donc, le tantra n'est pas moral. Le tantra, c'est, si on peut résumer aussi en une autre phrase, être un avec l'existence, au sens large, l'existence avec un grand E. C'est quoi l'existence? On peut dire l'univers, on peut dire ma mission sur Terre, on peut dire avec ce que la vie veut de moi, hein, d'une manière globale. Ce que la vie veut de vous, c'est ce qui vous rend plus ample, plus joyeux, plus léger, et puis ce qui vous rend heureux. Hein. À propos de heureux, il n'y a pas un être humain sur Terre qui ne veuille pas être heureux. Hein. Même si on inclut dans les humains les criminels, les pédophiles, les gens qui font des choses qui semblent vraiment terribles. Ceux-là aussi ont envie d'être heureux, mais ils l'expriment très très maladroitement, en tuant des gens, en faisant des actions assez bizarres pour nous. Même Hitler avait le désir d'être heureux. Il s'est exprimé d'une manière catastrophique, je dirais, très très maladroite. Mais au fond de lui, il avait envie d'être heureux. Il n'y a pas un seul humain qui n'ait pas ce désir de bonheur à l'intérieur. Donc, que ça soit clair, je ne fais pas l'apologie d'Hitler, hein. Je ne cautionne pas. Mais chaque humain sur Terre a envie d'aimer, a envie d'être aimé et a envie d'être heureux. Et c'est ce que on peut essayer de développer dans le tantra. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend joyeux? Est-ce que je peux donner la priorité à ça pour me déconditionner un peu de ce qu'on m'a appris? Et puis, ne pas donner autant d'énergie à ce qui ne me rend pas heureux ou heureuse. Voilà. Si on peut dire d'une manière générale, ça passe par interroger et trouver vos vrais désirs. Les vrais désirs, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui me rend plus ample? Le désir est de nature à amplifier votre énergie de vie, et la peur, les limites, les conditionnements sont plutôt de nature à vous faire rester sous la couette, voilà, pour échapper à tout ça. Alors moi, je m'appuie sur un auteur qui s'appelle Osho Rajneesh. En Occident, on le connaît beaucoup sous le nom d'Osho. Il a écrit un livre qui est assez connu. Il en a écrit beaucoup. Hein. Il en a écrit 650 ou 700. Mais ce n'est pas de sa plume qu'il les a écrits. Ce sont des conférences qui ont été retranscrites. Mais quand vous lisez, ça a tout à fait l'air d'être une œuvre écrite. Parce qu'il avait une telle clarté dans ses propos et une telle clairvoyance à propos aussi de l'être humain que c'est extrêmement parlant pour moi, en tout cas, ce qui est dit dans ses livres de manière générale. Il s'est exprimé sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Tous. Le yoga, le christianisme, le massage, tous. Donc, peu importe ce à quoi vous vous intéressez, Osho aura sûrement dit quelque chose. Peut-être aurez-vous envie de lire ce qu'il a dit à propos d'une chose en particulier. Parce qu'il il s'est éveillé à lui-même assez tôt, vers les 20 ans, 25 ans. Il aurait pu faire partie de notre groupe aujourd'hui. Il s'est éveillé à sa nature et puis il a très vite compris que son rôle c'était de porter ça dans le monde, mais aussi en Occident où c'est beaucoup moins connu. C'était à l'époque, il y a 35 ans environ, beaucoup moins connu qu'aujourd'hui, parce que le tantra est une technique qui a une origine plutôt orientale, loin dans le temps, il y a environ 8 à 10 000 ans. Il y a eu des écrits, des pratiques qui n'ont pas été écrites, justement. Les premières écoles tantriques se sont formées et ont commencé à diffuser des enseignements, mais qui étaient des pratiques, des exercices, comme l'exercice qu'on va faire tout à l'heure, pour donner la priorité au corps et pour se trouver les vraies réponses aux vraies questions. En gros, c'est ça. Pendant 3000 ans, il n'y a pas eu d'écrit. C'était un maître formait des disciples, les disciples devenaient maîtres et à nouveau avaient des disciples, hein, et ça se propageait comme ça, et c'était un peu secret, un peu en retrait du monde. 3000 ans plus tard, il y a eu un peu moins de jugement, c'était un peu plus facile pour les écoles de voir le jour, d'être au plein jour, et elles ont commencé à synthétiser ces écrits, et ça a donné ce texte-là, vous voyez, c'est pas une Bible, hein, parce que ça pèse beaucoup moins lourd, 3 pages à 4 recto verso, ça date d'il y a 8 à 10 000 ans, au niveau du concept. Donc c'est des écrits extrêmement denses et puissants, qui contiennent beaucoup de sagesse et surtout qui ont été affinés avec les milliers d'années pendant lesquelles ils ont été pratiqués. Alors le mot pratiquer a une importance, parce que même si vous lisez tous les livres d'Osho, déjà il faut du courage, mais même si vous lisez toute la littérature et puis ces 112 préceptes, vous n'aurez pas fait une seule seconde de tantra, parce que le tantra, c'est uniquement la pratique, uniquement les exercices. Alors bien sûr, là, je suis en train de parler parce que je donne des directions. Et c'est comme si je vous lisais le menu du repas qu'on va avoir tout à l'heure. Donc, faut pas confondre le menu qui est une feuille du papier avec le repas qui est une expérience sensorielle. C'est exactement ça. Là, maintenant, ça reste un petit peu intellectuel, mais... le but du tantra, c'est vraiment de donner un espace d'expression au corps, à la sensorialité, pour que notre propre vérité puisse émerger plus facilement. Pourquoi ? Parce que dans le mental, il y a des choses vraies, il y a aussi beaucoup de choses fausses, et ça se mélange. Parfois, on ne sait pas distinguer ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Mais dans le corps, il y a beaucoup moins de neurones. Il y en a pas mal dans le ventre. Mais il y en a beaucoup moins, et quand on danse par exemple, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est beaucoup plus naturel que quand on réfléchit à une phrase qu'on va dire, parce qu'il y a beaucoup moins de conditionnements qui viennent interférer, ou de peur qui viennent interférer. Il peut y en avoir, mais moins. Donc voilà, 112 préceptes qui donnent des moyens d'être plus conscient et plus présent dans la vie de tous les jours. C'est tout, c'est ça. C'est 112 techniques. En fait, ce sont des techniques. Le nom d'origine, c'est Vijnana Bhairava Tantra. Ça veut dire exactement technique d'expansion de la conscience. Donc, le tantra traite de conscience. Alors, conscience, ce n'est pas la même chose pour chacun. Mais peut-être on va faire un petit sondage. Qui peut me donner sa définition, même si ce n'est pas sûr une tentative de définition sur ce que c'est la conscience pour vous.
Ce que l'on voit.
Ce que l'on voit, ok. D'autres?
Les perceptions en général, les sens.
Ce qu'on perçoit avec les sens.
Les sens.
Les sens. Comment?
C'est l'instant présent, être là dans l'instant présent.
Être là dans l'instant présent, dans ce qu'on est.
Savoir
oui.
Ce qui est, savoir ce qui est, et les pensées.
Savoir ce qui est, ouais, les pensées qui circulent, ok. D'autres tentatives?
Pour moi, c'est...
Oui, vas-y.
Pour moi, c'est le support, en fait, de tout ce que je perçois. Autant la pensée, les sens, tout ce qui est dans mes sens, le toucher, la vue, les odeurs.
Le support de tout ce que je perçois, ok. D'autres... Dites ce qui vous vient, il n'y a pas de vraie vérité de toute manière à propos de ça, chacun a la sienne. Être présent à ce que l'on fait sur le moment, voilà, tu rejoins aussi Laure.
J'ajouterais aussi être visionnaire en fait sur tout ce qui se passe en fait autour de nous, ou en nous, de voir véritablement en fait.
Être visionnaire et voir.
Percevoir, voir.
Percevoir
une part de compréhension.
Une part de compréhension, ok. Je répète pour l'enregistrement. Ok, on a dit beaucoup de choses intéressantes. Alors, on emploie souvent le mot conscience avec conscience de... Conscience de quelque chose, ou de soi, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Dans le mot conscience, il y a en partie la notion d'observateur. je suis conscient de ce que je fais maintenant. Ça veut dire que ce que je fais et la conscience qui observe ne sont pas ensemble, puisque pour observer, il faut être à distance. Je ne peux pas observer si je suis à l'intérieur, hein. Si je suis dans la colère, mais si je me sens vraiment au sein du cyclone qu'est la colère, je ne peux pas l'observer. Je le vis, mais je ne peux pas l'observer. Si je suis conscient de la colère, j'ai une distance et je peux voir la colère qui arrive, qui se déclenche, qui commence à crépiter en moi. Donc conscience d'eux, ça implique une partie de nous qui serait à l'extérieur de nous pour observer, pour nous observer, mais aussi pour observer l'environnement. La perception, c'est aussi ce qui a été dit ici, la perception de notre environnement. Voilà, je sens de mettre un petit peu plus de lumière. Alors, on dit aussi conscient et inconscient. Hein. Inconscient, c'est absence de conscience. Hein. Voilà. Ceux qui ont froid, prenez des plaides hein, à tout moment. Vas-y, regarde. Pousse vers la gauche. Des fois, pousse la poignée vers la gauche. Tu veux bien accueillir ?
Ouais.
Voilà, on accueille un ou une invitée de dernière heure. Tu veux y aller ? D'accord.
Ouais, je vais y aller, c'est Laura. Ah, je vais y aller.
Elle va y aller.
Ouais, c'est Laura.
Ah, non,
Dora.
Bon.
Ah, bah, Dora.
Voilà, merci. Donc, le Tantra traite de conscience et traite d'expansion de la conscience. Parce que nous pouvons naître, nous pouvons être conditionnés et nous pouvons avoir une conscience de nous-mêmes et du reste du monde limitée. Ou même incorrect. Hein, nous avons une conscience peut-être déformée hein, de ce qui se passe. Déformée par quoi ? Bah, par peut-être les croyances, peut-être ce qu'on nous a raconté. Voilà. Mais c'est intéressant de s'imaginer que la conscience peut être séparée du corps, puisqu'elle peut observer le corps. Hein. Alors bien sûr, si je regarde ma main, je peux dire, ben non, c'est mes yeux qui regardent ma main. Mais si je ne fais rien et que je suis en train de méditer, je peux avoir un regard comme extérieur sur le corps, mon corps qui médite. Hein. Je peux avoir une présence qui n'est pas forcément localisée dans le corps. Tout ça n'a pas une grande importance, mais en vérité, développer la conscience, ça vise à centrer notre expérience et notre existence sur quelque chose que je pourrais décrire comme plus vaste que nous. Hein. On peut l'appeler comme on veut, hein, ça n'a pas d'importance. Ça peut être l'âme, ça peut être votre être, voilà. Tout ça n'est pas réellement important. Mais développer la conscience, ça va en même temps avec s'autoriser plus d'amour pour soi-même, c'est-à-dire se juger moins, s'aimer plus, s'accepter tel qu'on est. Ça va avec aussi plus de liberté et plus de bonheur. Hein. C'est pour ça que le Tantra dit, en une phrase, « Soyez détendu et naturel ». Cette phrase-là, elle a l'air très anodine, mais en fait, c'est un enseignement tantrique qui avait été donné il y a 1000 ans par un maître. Et quand on venait le voir en lui demandant un enseignement, il répondait toujours ça, la même chose. Il s'arrêtait, il disait rien de plus. Il disait « soyez détendu et naturel ». Donc, ce n'est pas si anodin que ça d'être complètement détendu et complètement connecté à votre nature. Hein. Il y a votre nature, c'est-à-dire qui vous êtes profondément, en dehors de tout conditionnement, de toute chose extérieure, et connecté à ce qui est détendu parfaitement, hein, c'est-à-dire sans tension intérieure, sans peur. Si vous sentez par moment dans votre vie que c'est ça, que vous êtes vraiment détendu et naturel, vous y êtes, vous faites du tantra, vous êtes déjà dans le tantra. Le tantra ne vise pas à vous apprendre des choses, mais à vous rappeler ce que vous savez déjà. C'est ça. Donc, d'une certaine manière, vous partez avec un bonus. C'est-à-dire que vous avez déjà le gros lot à l'intérieur, mais il est masqué, voilé, par des couches, des couches, des couches, des couches de choses fausses. Et donc, le travail du tantra consiste à enlever les voiles et à s'autoriser plus de liberté avec des choses naturelles, vraies et détendues. Hein. Voilà. C'est parlant ce que je dis jusqu'à maintenant ? C'est pas trop ésotérique ?
C'est une chose du coup de commencer maintenant.
C'est une chance de commencer maintenant, en effet. Comme tu le dis, moi je vous ai dit en entrée de jeu, vous êtes des pionniers. Vous êtes une génération qui a peut-être reçu moins de conditionnement, ou peut-être tout simplement qui est dans une époque où la conscience du monde est plus grande, et la conscience du monde interagit sur notre conscience. Quand je dis la conscience du monde, c'est la conscience collective. On peut parler de la conscience de l'humanité en tant qu'entité, parce que l'humanité a aussi des directions. Elle va vers les guerres, elle va vers la paix, elle va vers l'amour. En tant qu'entité générale, globale, il y a aussi l'inconscient collectif. Alors, on ne rentre pas forcément dans ces notions-là, dans le tantra, mais on peut dire que quand nous naissons dans un environnement avec plus de vibrations d'amour, avec plus de tolérance, alors on a un esprit moins conditionné, et puis c'est plus facile de s'ouvrir, parce qu'il s'agit de ça dans le tantra. S'ouvrir, vous ouvrir à votre vraie nature. Voilà. Alors, peut-être aussi entre 18 et 30 ans, qui est la plage de ce groupe, peut-être qu'il y a eu moins de temps au conditionnement, aux facteurs extérieurs, de s'ancrer profondément en vous et de polluer, entre guillemets, votre mental. Et peut-être êtes-vous un peu plus connecté à ce qui est vrai pour vous maintenant. En tout cas, ce qui m'a poussé à faire cette réunion, c'est des participations d'avant-garde, comme Marion qui est là à ma gauche, et aussi Marion qui est là à ma droite. Donc, je suis cerné par les Marions. Marion-les. Des comportements qui, d'emblée, me sont apparus nouveaux. Nouveaux en ce sens qu'ils sont porteurs de beaucoup plus de liberté. Alors Marion, la première chose qu'elle m'a dit pratiquement, quand elle est venue à un groupe de méditation active, « Est-ce que je peux te payer avec des légumes ?» Je dis « Oui, bien sûr, au contraire, avec plaisir. » Et c'est la première fois que j'entendais quelque chose comme ça. Hein. Et puis c'était des légumes bio. Hein. Et puis donc c'était du troc. Et puis c'était... quelque chose qui porte une certaine énergie. Hein, Et puis, il ne m'a pas fallu très longtemps pour voir une dose de liberté bien plus importante que chez la plupart des jeunes que je connaissais alors, même si ben, moi, je n'ai pas forcément le même environnement que vous. Et lorsque de plus en plus de personnes jeunes ont commencé à s'intéresser à mes groupes, je me suis dit, bon, cette nouvelle génération est prête beaucoup plus tôt que nous. Parce que nous, en tant que, moi j'ai 58 ans, hein, en tant que ceux qui ont connu la psychothérapie vraiment sur le tard, vers les 40 ans, voire plus, nous avons... Voilà la jeune génération qui arrive. Eh bien, nous avons pu récolter les bénéfices de l'ouverture beaucoup plus tard. Hein, et peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais en vérité, je ne sais pas. Hein. Disons que simplement, moi, je m'adapte. Et je vois qu'il y a des ouvertures et je me dis, bah, c'est le moment. C'est le moment. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Moi, je n'ai aucun réseau, pratiquement, hein, dans l'univers des 18-30 ans. Donc vous êtes les porteurs de flambeaux. Si ce que je dis là est intéressant, motivant pour vous, peut-être sentirez-vous de répandre ça ou de faire écouter cette conférence enregistrée à d'autres pour qu'à leur tour, ils puissent identifier s'ils résonnent à ça ou pas. Hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Il y a plein de thèmes différents. Hein, on peut aborder être joyeux, on peut aborder qu'est-ce qui nous empêche d'être libre, on peut aborder honorer le vivant en moi, on peut aborder résoudre les conflits intérieurs en choisissant de les inclure, on peut aborder unir le masculin puissant au féminin sensible en moi pour faire des noces à l'intérieur comme un mariage, on peut aborder améliorer l'estime de moi-même, on peut aborder où en est mon autonomie affective et on peut aborder aussi célébrer le désir, le glorifier, lui redonner ses lettres de noblesse. Tout ça, ce sont des directions, mais en sous-jacent de ces directions, c'est toujours comment je peux être plus libre, plus vrai avec moi-même, comment je peux laisser ma vraie nature s'exprimer. C'est ça le point commun. Donc il y a beaucoup d'axes pour le faire. Hein. Et à chaque fois que je présente un groupe où j'invite des personnes à participer à un groupe, il y a une direction qui est explorée parmi toutes celles-là ou parmi d'autres. Voilà, on fait une mini-pause pour vous donner juste la parole. Est-ce qu'il y a des questions à poser maintenant sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent ou tout ce qui n'a pas été dit aussi, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de préjugés ou beaucoup de clichés à partir du tantra. Donc, qu'est-ce que le tantra n'est pas? Parce que, pour l'instant, j'ai parlé de ce que le tantra est. Hein. Donc, ça aussi, ça peut être d'actualité. Oui. Voilà. Oui.
J'associe le tantra à la sexualité.
Oui.
Vous l'avez évoqué. Bah, c'était ça ma question. C'est la danse tantrique, la notion de tantra est associée à la sexualité, à l'érotisme.
Oui.
Et je voulais savoir si c'en est aussi le contenu et quelle est votre approche.
Super. Excellente question. Parce que c'est un lieu dit du tantra. C'est un lieu commun. Et c'est aussi une forme de perversion du tantra. Le tantra ne s'occupe pas spécialement de la sexualité, mais il s'occupe de la conscience. Hein. Je l'ai dit juste avant que tu arrives, le tantra, c'est un ensemble de techniques pour développer la conscience. Alors la conscience, c'est un vaste mot. Hein. On en a aussi un petit peu parlé. Mais donc, le tantra s'occupe de vérifier ce qui est tendu en nous, ce qui a peur, ce qui est limité, pour lui donner un espace d'expansion, pour permettre à ça de se déployer. Alors, dans ce contexte-là, le tantra s'occupe de l'énergie sexuelle. Hein. Et puis, notez que j'ai dit énergie sexuelle et pas sexualité. Et je fais la différence. Hein. L'énergie sexuelle, c'est plus l'énergie qui part du sexe, qui s'exprime sous la forme d'un désir, qui on peut dire, pour certains, fait pétiller mes cellules d'envie. Hein. C'est pas la sexualité qui est plus l'acte en lui-même ou l'accomplissement ou l'aboutissement de ce désir. Alors, dans ce contexte, le tantra s'occupe des peurs là où elles sont. Hein, et il s'avère que dans le corps et dans l'énergie sexuelle, le sexe, il y a énormément de peurs. S'il y avait des peurs dans le petit doigt, voilà, s'il était comme ça au lieu d'être comme ça, le tantra s'occuperait du petit doigt. Bah, qu'est-ce qui se passe là? Bah, vas-y, redresse-toi. Voilà. Ah, ça va mieux. Donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de conditionnement, mais il y a aussi de la culpabilité, il y a de la honte, il y a de la gêne, il y a beaucoup de jugements à propos de la sexualité, de l'énergie sexuelle et du sexe dans notre société, même si sous des aspects de société libérée, il y a beaucoup de choses qui sont complètement réprimées dans ces domaines-là. C'est parce qu'il y a tout ça que le tantra vise à reconsidérer cette énergie et la réhabilité, c'est-à-dire c'est une énergie naturelle. Hein. Il n'y a pas besoin d'un manuel, même Adam et Ève, enfin, s'ils ont existé, mais prenez un enfant qui n'a pas reçu de conditionnement, un enfant sauvage, dans la forêt, vous mettez un couple d'enfants sauvages, ils vont grandir, et puis naturellement, ils vont savoir ce que c'est que l'énergie sexuelle, ils vont savoir ce que c'est qu'être attiré l'un avec l'autre. Il n'y a pas besoin de manuel hein, pour ça. Donc c'est une énergie qui est naturelle et il s'avère que c'est extrêmement occulté dans notre société. On en parle très peu. Les parents ne nous en disent pratiquement rien, sauf peut-être les parents qui ont eu la chance de s'ouvrir un peu plus. Mais dans la majorité, il y a beaucoup de non-dits. On associe beaucoup de jugements. Il y a aussi beaucoup de peur. Hein. Les mères peuvent éduquer leurs enfants, certaines mères, éduquer leurs enfants à ne pas toucher au sexe, à ne pas le montrer. Voilà. Il y a des choses qui sont naturelles étant en bébé, étant tout jeune enfant, qui ensuite ne le sont plus parce que l'esprit est conditionné. Donc, en réponse à ta question, on essaie de réhabiliter le naturel de ça, le joyeux de ça et le ludique de ça. Hein, ce qui est considéré comme une énergie puissante qui fait partie de notre corps, qui gouverne le monde en ce sens que vous êtes né d'un désir d'un homme et d'une femme, vous êtes né à travers le sexe d'une femme, donc c'est pas anodin. Hein, comment peut-on complètement occulter cette force très puissante et dire « soyez un avec l'existence », c'est impossible. Donc, il y a ce que Osho, qui a écrit ce livre, a mis en avant en Occident, c'est ce qu'on appelle le néo-tantra. Le nouveau tantra, il inclut plus la dimension sexuelle que le tantra d'origine, hein, celui-là. Sur les 112 préceptes techniques d'expansion de la conscience, il y en a 3 qui relèvent de l'énergie sexuelle. Seulement 3. Donc ça fait peu. Hein. 3% à peu près. Osho a intégré une part d'exercice ou d'enseignement plus important sur l'énergie sexuelle parce que il s'est avéré que la société occidentale dans laquelle il a amené le tantra était beaucoup plus conditionné à propos de ça. C'était beaucoup moins naturel qu'en Orient où ces énergies-là étaient plus intégrées dans le vivant. Voilà, donc on peut trouver un petit peu plus d'exercices qui visent à reconsidérer l'énergie sexuelle différemment, la réintégrer, l'accepter comme une part du vivant, de soi, voire même la célébrer, la glorifier, lui redonner ses lettres de noblesse, et aussi enlever les jugements habituels qu'il y a dessus. Hein, enlever la... Alors bien sûr, pour la plupart des gens, c'est pas facile, parce que c'est extrêmement plombé par des choses qu'on nous a dites. Donc, le tantra, et surtout dans les soirées d'initiation, nous invite à y aller doucement avec ça, à y aller progressivement et surtout à y aller en respectant son propre rythme, hein, en fonction de vos peurs, en fonction de votre liberté et de l'équilibre entre les deux, vous pourrez trouver un rythme qui est plus ou moins rapide pour autoriser certaines choses. Mais ce n'est pas central dans le tantra. Ce qui est central, c'est devenir libre, devenir vrai, devenir conscient et laisser l'énergie sexuelle faire partie de ça, amener la conscience aussi dans l'énergie sexuelle. Pourquoi l'énergie sexuelle serait ramenée à la bestialité, à l'animalité, à l'inconscience, aux pulsions et pas aussi imbibée de notre conscience, hein ? Je peux regarder mon énergie sexuelle comme sacrée. Après tout, elle donne la vie, hein ? Il y a quelque chose de qui s'élève, qui peut s'élever. Mais d'abord, j'ai besoin d'élever mon regard. Hein. Et on dit que la beauté ne réside pas dans l'objet regardé, mais dans les yeux de celui ou celle qui regarde. Donc, si je regarde l'énergie sexuelle avec un regard sacré, sacré ça veut dire qu'il veut s'élever, alors elle deviendra sacrée. Voilà ce que je peux dire. Donc ça fait partie, et bien souvent dans certains exercices qui incluent l'énergie sexuelle, nous nous bandons les yeux, parce que en nous bandant les yeux, nous abandonnons consciemment certains jugements qui disent « toi oui, toi non hein, », et qui partent sur des choses qui sont mentales hein, et qui ne sont pas naturelles. Donc, lorsqu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas besoin de bandeau. Mais pour commencer, on essaie de revenir à, je dirais, la sensorialité du corps. Si vous touchez le bras de quelqu'un, ou même votre propre bras, très lentement, très doucement, en l'effleurant, voilà, vous pouvez sentir, est-ce que mon corps aime ça hein? Ou si quelqu'un d'autre le fait. La plupart des gens répondent oui. Il y a très peu de gens qui ont répondu que le corps n'aimait pas la sensualité. Mais quand il y a un moulin qui se met en route, c'est un moulin à pensée, un moulin à jugement, alors ça peut perturber le résultat de ça. Oui, mais elle ne va pas être d'accord. Oui, mais elle va me rejeter. Ça ne va pas lui plaire. Voilà, ça, c'est tout ce que je rajoute à quelque chose qui est foncièrement agréable pour le corps. Donc, votre corps aime la sensualité et c'est pour ça qu'on l'expérimente avec le corps. Une autre chose qui est importante avec le corps, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de jugement dans le corps. Et il y en a beaucoup dans l'esprit. Hein, l'esprit étant au sens large. Et donc, lorsque nous bandons les yeux à travers lesquels peuvent passer beaucoup, beaucoup de jugements, c'est en même temps une opportunité d'être plus vrai avec ce que nous ressentons. Et le tantra va vous proposer de ressentir des choses. Pas de penser des choses, hein, mais plutôt de ressentir avec le corps, ou alors, s'il y a un exercice qui inclut la parole, de ressentir votre vérité quand vous dites une chose vraie, quand vous témoignez une chose vraie. Dans le tantra, on utilise la parole associée à la conscience, c'est-à-dire, en commençant, j'ai dit « j'ai un peu peur hein, », par exemple. C'est une parole vraie, c'est une parole qui vient de l'intérieur. J'ai pas essayé de dire « non, non, ça va bien aller, non, je me sens super bien ». Non, je suis vrai. Et donc, une parole authentique, c'est une parole qui n'est pas, qui n'exprime pas autre chose que ce qui est ressenti dedans. Et donc, c'est ce que j'appelle un témoignage. Hein, vous témoignez, où vous constatez les choses et vous les dites. Et c'est cette dimension-là qui, dans le tantra, est exploré lorsqu'on utilise la parole. Par exemple, qu'est-ce que tu as à me dire sur la première fois que tu es tombée amoureuse hein, voilà, je t'écoute, je ne t'interromps pas, c'est toi qui parles. Et puis tu vas essayer d'être vrai. Vrai, ça veut dire de ne pas censurer de choses, parce que je t'écoute sans jugement, je t'écoute en laissant entrer ce que tu me dis. Et quand tu as terminé, peut-être 10 minutes, à mon tour, de te témoigner sur le même sujet. Hein. Parfois, il y a tel sujet, tel autre. C'est qu'un exemple, bien sûr. Donc, le point commun entre tout ce qu'on fait dans le tantra, c'est être authentique. Hein, authentique. Parfois, on nous a appris dans le monde extérieur, à masquer notre vérité pour être accepté. Hein. Et dans ce qu'on fait ici, on va essayer de démasquer. Ce n'est pas un bal masqué, c'est un bal démasqué hein, que je vous propose quand on danse ensemble.
Allô ? Le bal masqué, en plus, c'était pour essayer de démasquer.
Oui. Exactement. Les bals masqués, c'était justement pour favoriser la sensorialité. C'est exactement comme lorsqu'on se bande les yeux. Hein. Parce que je ne sais pas qui est en face, alors je peux autoriser plus de choses que si je le savais. Alors moi, je vais vous raconter une anecdote qui est une expérience de ma vie. Hein. Lorsque j'ai commencé le tantra, au bout de peut-être un an de tantra, j'ai vécu une expérience qui incluait les yeux bandés de sensualité. Cette expérience-là a été paradisiaque, magnifique, mais alors j'étais dans un état waouh, Et quand j'ai enlevé le bandeau, je crois que cette femme a dû venir me dire, normalement on n'est pas censé savoir, hein, mais il se trouve que j'ai su. Et je me suis dit, jamais, 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 je ne l'aurais choisi. Les yeux ouverts. Hein, parce qu'il y avait beaucoup de jugements sur son aspect physique, sur ce qu'elle me renvoie. Nous avons dans les yeux et dans le cerveau une machine à faire rentrer les gens dans les cases. Et ça se passe en une demi-seconde. Hein, parce que vous avez une faculté de reconnaître, le bébé a une faculté de reconnaître un visage entre 1000 en moins d'une seconde. S'il a vu 1000 visages, hein, il va se rappeler d'un certain visage en moins d'une seconde. Donc il y a un mécanisme très complexe à propos des visages dans le cerveau. Mais si ça restait là, ce ne serait pas très grave. Mais au visage, nous associons des jugements. Hein. Celle-là, elle est trop comme ci. Celui-là, trop grand, fumeur, pas fumeur. Voilà. En moins d'une minute, vous avez rempli un nombre énorme de cases. Correspond, correspond pas. C'est ok, c'est pas ok. Hein. Je me rapproche de lui, je me rapproche pas de lui. Ou d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'on bande les yeux pour masquer ces énergies de jugement. Hein. S'il n'y avait pas tous ces jugements, on ne banderait pas les yeux. Hein. C'est pour ça que je le dis, c'est important dans un premier temps de se rendre compte des autorisations qui peuvent être données lorsque les yeux sont bandés, qui peuvent être beaucoup plus grandes. Et puis, entrer dans la sensorialité, ça aussi invite le corps à se détendre et puis à ressentir. Hein. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. Le ressenti est toujours vrai. Hein. Je répète cette phrase parce qu'elle est importante. Le ressenti, votre ressenti est toujours vrai. Si vous dites « je me sens mal », personne ne pourra dire « c'est pas vrai ». C'est vrai, puisque vous le sentez. Hein. Il n'y a que vous, d'ailleurs, qui êtes au courant de ce ressenti. Donc, il est vrai. C'est ce que j'appelle votre vérité. Ce n'est pas une vérité absolue, mais c'est une vérité relative, la vôtre. Donc, là, je me sens un petit peu joyeux, je me sens un petit peu euphorique. C'est vrai. Hein. Et donc, quand vous entrez dans un ressenti du corps, vous êtes en contact avec votre vérité. Cette vérité a un effet, parce que elle ne passe pas à travers les filtres du conditionnement, du mental, etc. C'est pour ça que le corps est un point d'entrée royal dans le tantra, hein, pour être plus détendu, plus naturel, mais surtout être conscient, être présent. Le ressenti, c'est toujours au moment où ça se passe. C'est pas il y a 10 minutes, c'est pas dans 10 minutes, c'est maintenant. Le ressenti, c'est maintenant. Bientôt, vous pouvez avoir une mémoire de ressenti, vous pouvez anticiper un ressenti, mais la mémoire et l'anticipation sont mentales, sont de l'ordre du mental, ne sont pas ce qui se passe. La seule chose qui se passe, c'est maintenant. Hein. Par exemple, si je fais sonner ce gong, le moment où vous l'entendez, c'est maintenant. Du début à la fin, c'était le maintenant. Du début à la fin du son, c'est le moment où ça se passe. Et en vérité, si vous faites abstraction du mental, qui est une série de neurones qui se mettent en mouvement pour vous produire des mémoires ou des projets, si vous faites abstraction de ça, la seule vraie réalité, c'est ce qui se passe maintenant. C'est au moment où vous écoutiez ce gong, c'est comment vous l'écoutiez. Hein, c'est ça. Le tantra se base là-dessus, hein, sur le ressenti du moment présent. Donc quand vous êtes joyeux, c'est maintenant. Quand vous êtes vivant, c'est maintenant. Quand vous vous sentez en expansion, c'est aussi maintenant. Et tout ça, c'est vrai. Hein. Et lorsque vous sentez que c'est vivant, et comme c'est vrai, ça ne peut pas ne pas s'imbiber en vous de plus en plus. Hein. Quand vous vous sentez libre et que c'est maintenant, ça ne peut pas avoir un effet qui vous gagne, hein, c'est-à-dire qui va reprendre progressivement la place des schémas mentaux qui disent fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi bien, fais carrière, gagne des sous, voilà. Tout ça, c'est des idées, des pensées ou des conditionnements. Donc, on essaie de revenir au moment présent, à ce qui est réel, au ressenti, dans le seul but d'augmenter la conscience de ce qui se passe. Hein, pour essayer de rester conscient tout le temps, en dehors des groupes. Hein. Il est hors de question d'être libre pendant 3 heures pour ensuite retourner en prison à l'extérieur. Hein. Alors bien sûr, ce n'est pas une formule magique, hein, ce n'est pas 3 heures et puis après c'est terminé. Le déconditionnement a pris des milliers d'années, je ne rigole pas, c'est vraiment le cas, des milliers d'années pour s'installer en vous, à travers les générations successives, et donc ça peut être progressif de se déconditionner, parce qu'il y en a qui ont, il y a des résistances qui ont la vie dure, hein, des croyances aussi qui ont besoin d'être sécurisées avant de pouvoir les lâcher. Donc ça se fait progressivement, mais lorsque vous devenez plus libre, séance après séance de tantra, tout simplement parce que vous autorisez de plus en plus de choses vraies en vous, naturelles, détendues en vous, alors ça gagne vos cellules, hein, c'est-à-dire que vous commencez à le sentir que ça prend plus d'espace en l'intérieur de vous. Et quand ça gagne vos cellules, votre vibration intérieure devient plus libre et vous pouvez constater que dans votre vie, c'est comme si ça faisait des vagues. Quelqu'un de libre ne peut pas laisser quelqu'un de non libre indifférent. Parce que, en vérité, chaque être humain a envie d'être libre. Personne n'a envie de vivre en prison. Hein. Il n'y a pas un être humain qui a envie d'être limité à ce point. Donc, prenez un homme libre, prenez Nelson Mandela, prenez Jésus, prenez Bouddha, des gens qui ont atteint un haut degré de réalisation, ils ont attiré des centaines, des millions de personnes parce que tout le monde voudrait avoir la recette du bonheur et de la liberté. Donc quand vous êtes libre, magnétiquement, vous allez attirer plein de gens. Parce que déjà, vous ne demandez plus rien à l'autre. Hein. Alors là, l'autre est tranquille. Hein. Il n'y a plus de « aime-moi s'il te plaît ». Non, je m'aime suffisamment, mais je suis heureux par moi-même, mais je suis d'accord pour partager ce bonheur avec toi. Et là, c'est deux êtres libres qui célèbrent le bonheur ensemble. Ils ne sont plus en train de faire la manche pour le bonheur. S'il te plaît, je t'en prie, je t'en supplie, aide-moi. Alors là, ça peut paraître irréalisable pour l'autre. Hein. S'il y a un manque énorme, bah, il y a des chances que l'autre se sente un petit peu pas à la hauteur pour combler. Mis à part le fait que l'autre ne peut pas combler. Hein, ce manque-là, il vous appartient de le remplir. Donc, dès que vous êtes un peu plus libre, vous allez commencer à attirer les gens parce qu'ils vont aussi avoir envie d'être libres et être à votre contact sans qu'il y ait de demande exagérée de votre part. Quand vous laissez cette liberté rayonner, c'est-à-dire que un être libre va s'exprimer librement, va avoir des actes libres, et puis ça va se voir, hein, ça va se voir. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre interne qui rayonne. Voilà. Tout ça, c'est pas neutre, et c'est attirant. Hein. Regardez pour vous-même, est-ce que quelqu'un qui n'arrête pas de parler de lui en termes de ou d'elle, en termes de victime qui s'effondre comme ça, je vous en supplie, aidez-moi, faut que je m'en sorte, le monde est trop cruel. C'est Calimero, hein. Est-ce que ça, c'est attirant, ou est-ce que quelqu'un qui rayonne sa joie d'exister, qui célèbre l'existence et qui ne vous demande absolument rien, c'est attirant, hein. C'est facile à voir. Donc, ces énergies-là, vous les cultivez dans les groupes, vous les autorisez dans un espace protégé, c'est utile qu'ils soient protégés, pour ensuite aller les vivre dans le monde et aller les exporter et aller faire des vagues avec. Et ça peut être aussi donner envie à d'autres de faire la même chose. Hein. Mais il n'y a pas que le tantra, hein, pour effectuer une des voies, bien sûr. Il y a énormément de voies. On dit tous les chemins mènent à Rome, et Rome, c'est l'espace de notre cœur, l'espace où on est complètement rempli de nous-mêmes, et qu'on n'a plus besoin de demander de l'amour aux autres, on en a en abondance à l'intérieur. C'est clair jusqu'à maintenant ? Des questions, des choses ? Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Alors, dans le tantra, on fait des exercices. Donc, j'ai déjà parlé de l'outil de bander les yeux, hein, qui est une manière de s'autoriser davantage. Le but étant toujours de s'autoriser davantage. Parce que les endroits qui ne sont pas autorisés à cause des peurs sont les endroits où vous limitez votre vraie nature, hein, où vous limitez qui vous êtes. Si à cet endroit il y a le désir d'aller explorer, hein, voilà. Alors, dans le tantra, on fait beaucoup de choses différentes. Hein. On peut faire des exercices tout seul, c'est-à-dire méditer. Il peut y avoir une musique, il peut ne pas y avoir de musique, et j'essaie de rester présent à moi-même pendant un certain nombre de minutes, sans bouger, sans faire un bruit, confronté à qui je suis. Hein. Pour certains, c'est très difficile. Pour certains, c'est un vrai délice. Alors, on explore l'intervalle entre les deux et la progressivité de l'un vers l'autre. On peut faire des exercices deux par deux, entre hommes et femmes. Ça peut inclure la danse, ça peut inclure des exercices énergétiques où les corps sont en contact, différents types d'exercices. On peut faire des exercices où tous les hommes sont ensemble et partagent une forme d'exercice ensemble. Toutes les femmes sont ensemble séparément, partagent aussi une certaine forme d'exercice ensemble. Et on peut faire aussi des exercices où tout le groupe est ensemble dans l'exercice. Alors, j'ai dit danse, on a commencé par ça tout à l'heure. La danse est le contexte que nous connaissons tous, dans lequel il y a le moins de jugement possible, parce que c'est le corps qui a l'œuvre. Hein. Donc, c'est beaucoup plus facile de détendre dans une danse que de commencer à discuter. Ou, voilà, c'est le corps qui dirige, qui est le chef d'orchestre. On peut faire des exercices qui incluent la respiration, puisque la respiration est un vecteur d'énergie assez puissant qu'on explore aussi dans le tantra. On peut faire des exercices dans lesquels on met son attention sur l'énergie sexuelle, on essaye de l'autoriser, de la libérer, hein, de la déconditionner. Et on peut faire des exercices dans lesquels l'axe, c'est la parole, mais toujours en conscience. Je te dis qui je suis dans tel domaine, et ensuite tu me dis toi qui je suis. Ça peut être deux par deux, ou ça peut même être les femmes entre elles, les hommes entre eux. Il y a une grande variété d'exercices, mais en effet, ils passent pour la plupart tous par le corps, par la parole, mais c'est une forme de parole particulière dans laquelle ce n'est pas le mental qui est sollicité. Hein. Parce que le tantra ne cherche pas à développer le mental. Le mental est assez développé comme ça, c'est plutôt à réduire son emprise pour qu'il reprenne sa vraie fonction. Et la vraie fonction du mental, c'est d'être au service de l'esprit, au service de la conscience. Le mental a un rôle à jouer. Hein. Si vous voulez faire 2 plus 2 égal, vous aurez besoin du mental. Si vous voulez vous rappeler comment conduire une voiture, vous en aurez besoin. Donc le mental a des rôles à jouer, mais ça commence à devenir problématique lorsque le mental outrepasse ses fonctions et commence à prendre le contrôle sur votre vie. Hein. Si vous avez un mental fort, vous aurez envie de vous sentir en sécurité tout le temps en essayant de contrôler les gens, en essayant de contrôler les situations pour qu'il n'y ait pas d'imprévus, surtout pas de vagues, mais en même temps vous aurez une vie très tendue parce que le contrôle implique la tension. La tension en deux mots, hein, une tension. Un jugement, c'est une tension. Une peur, c'est une tension intérieure. Un tabou, c'est une tension. Une croyance, c'en est une aussi. C'est quelque chose qui est figé. Hein. Une certitude, voilà. Tout ça, ça parle d'endroits en vous qui sont limités parce que tendus. L'image que je prends souvent, c'est il faut beaucoup d'énergie pour serrer le poing, et c'est aussi signe de quelque chose qui peut être violent, hein, et beaucoup moins d'énergie pour ouvrir la main. Et donc, le tantra vise à que vous puissiez ouvrir la main plus souvent, à l'endroit où le poing est serré et fermé, à l'endroit où les murailles sont hautes et que vous vous protégez, vous êtes dans un château fort. Quand vous êtes dans un château fort, vous êtes en sécurité, mais vous avez aussi les litres d'huile bouillante que vous pouvez verser sur tous ceux qui vont s'approcher. Vous êtes en sécurité, mais très isolé, hein, parce que les autres non plus ne peuvent pas venir vous enrichir de quelque chose. Donc on apprend à baisser les barrières lorsque c'est adéquat de les baisser. Hein. Il ne s'agit pas de les baisser en toute occasion. Il s'agit d'avoir assez de clairvoyance, de discernement pour dire, bon, ben, dans ce cadre-là où il n'y a pas de jugement, dans ce cadre-là où il y a une relative sécurité, tiens, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Qu'est-ce qui se passe? Ah, wow, c'est bon. Voilà. Et puis, autoriser. Voilà. Je ne fais pas ça à 18h dans le métro. Peut-être un jour, on pourra le faire. Dans les métros du futur. Je le souhaite. Mais pour l'instant, ça peut sembler un peu difficile. Ça répond à la question ? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Comme il y a des thèmes pour chaque groupe, j'essaie d'associer un peu l'exercice au thème. Par exemple, renforcer l'estime de soi-même. C'est un thème majeur dans le tantra. Comment puis-je ouvrir mon cœur et aimer toi, t'aimer toi qui viens en face de moi, pas au sens amoureux du terme, mais au sens universel du terme. Si j'ai pas assez d'amour pour moi-même, hein. Si je suis en manque, si je me sens en manque d'amour, la seule chose que je peux donner, c'est le manque. Hein. Je peux irradier le manque. C'est ça l'esprit de la victime. Hein. Et donc, on apprend à nourrir le manque en se faisant des cadeaux, en s'autorisant des choses. Il y a des exercices qui sont conçus spécialement pour que vous receviez quelque chose, que vous laissiez entrer en vous quelque chose. Hein. Par exemple, il y a un exercice qui s'appelle « Donne-moi ce dont j'ai envie ». Hein. Je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails, parce que j'aime bien laisser planer le mystère sur certains exercices, mais pour résumer en une phrase, c'est « J'ai une demi-heure de temps devant moi, j'ai une envie qui n'a jamais été réalisée, et je te demande de la réaliser ». Maintenant, tu peux dire oui ou tu peux dire non. Hein. Et moi, je peux changer aussi si ça ne te convient pas. Et à ce moment-là, je reçois quoi ? Ce que j'ai demandé. Puis après, c'est moi qui te donne ce que toi, tu demandes. Donc, on se fait des cadeaux. Hein. Et en même temps, on se respecte. Parce que ce n'est pas un cadeau si ce que je donne agresse l'autre, hein, bien sûr. La règle numéro un dans les groupes, c'est respectez-vous. Sachez dire oui quand c'est oui. Mais sachez reconnaître que parfois, c'est non. Parce que c'est trop tôt. Parce que vous n'êtes pas prêt à recevoir ça, parce que, etc. Pour vos raisons à vous, hein, qui sont toujours vraies et justes. Donc quand vous savez dire un vrai non, et c'est vrai pour les femmes en particulier, pas seulement, mais c'est plus vrai pour certaines femmes, alors le moment où vous allez dire oui, ça va être un moment où le oui sera un vrai oui. Et la personne qui a entendu un vrai non de votre part, le moment où le oui arrive, saura que c'est un vrai oui, et pourra faire confiance à ce oui. Donc c'est important de savoir dire un vrai non. C'est pas oui mais non. Hein. Je ne le sens pas vraiment, mais je dis oui. Hein. Et à ce moment-là, il y a un conflit à l'intérieur, hein, qui fait que vous, peut-être vous vous êtes sacrifié, peut-être vous avez fait pour l'autre, au lieu de faire pour vous. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est toujours très net, mais sentez le pétillant, le joyeux, ça correspond au oui, et puis sentez le blocage, le « ah non, 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 là je sens que si je dis oui, ça va être violent, donc je dis non hein. ». Là c'est clair, je ne veux pas laisser entrer quelque chose de violent en moi, donc je dis non. Et à ce moment-là, vous faites preuve de yang, ce qui tranche. Les femmes, certaines femmes ont à apprendre à trancher, faire la différence entre oui d'un côté et non de l'autre, dans certaines situations. Ça ne veut pas dire qu'entre le oui et le non, il n'y a pas une infinité de peut-être. C'est vrai, hein, aussi. Des questions intermédiaires ? Alors, qu'est-ce qui peut quand même différencier un groupe tantra jeune d'un groupe tantra ouvert à tous. J'ai quand même donné certaines directions dans mon invitation. Vous êtes une génération qui est appelée à construire le monde, qui peut-être le fait déjà. Et donc, si vous construisez le monde avec des énergies libres, vous allez construire un monde plus libre. Si vous construisez le monde avec des énergies conditionnées, vous allez répercuter les mêmes conditionnements qu'on vous a légués en construisant un monde. Construire un monde, ça veut dire prendre un emploi, créer une entreprise, même faire partie du système politique, peu importe, mettre votre énergie dans le monde. Quelle que soit l'énergie que vous avez, si vous la mettez à contribution dans le monde, vous influencez le monde. Un petit peu, beaucoup, complètement, c'est pas important. Gandhi disait cette belle phrase, « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » N'essayez pas de changer le monde, mais autorisez-vous à être libre, et avec cette liberté, agissez, et là, ça rayonne. Et donc, le monde, par votre intermédiaire, comme disait aussi Krishnamurti, des petits feux allument un grand brasier. Donc, il y a un feu là, un feu là, un feu là, et à la fin, il n'y a plus qu'un seul grand brasier. Donc, votre place, qui est un peu plus, pour moi, est plus flagrante que celle de l'ancienne génération, c'est de construire le monde. C'est de bâtir le monde avec des intentions plus libres et plus portées sur l'amour. Parce que quand on construit un monde avec des briques d'amour, alors les relations dans ce monde vont être beaucoup plus harmonieuses. Je ne suis pas en train de parler d'utopie, je ne suis pas en train de parler d'un monde idéal. Il y aura toujours des conflits d'ego, peut-être moins, il y aura toujours des « je veux avoir raison », il y aura toujours « moi je suis mieux que toi », mais peut-être moins, peut-être que ça va diminuer un peu, et peut-être que le monde sera, grâce à vous, grâce à ces énergies que je sens nouvelles, un peu plus vibrant d'amour que l'ancien. Alors, c'est pour ça que ce qu'il y a en ce moment en vous, qui a pu hériter de certains conditionnements, même s'ils ne sont pas majoritaires, ça peut être relativement plus facile de le laisser s'exprimer, de le transformer, que pour nous qui avons fait un travail beaucoup plus en profondeur avant de pouvoir accéder au tantra, avant de pouvoir accéder à... c'est possible, c'est même possible d'intégrer un groupe. C'était complètement effrayant pour moi, le tantra, au tout début. Donc, faire partie de ceux qui rayonnent une nouvelle énergie, faire partie de ceux qui invitent à construire un monde qui est plus naturel. Alors, naturel, ça veut dire harmonieux entre ce que nous sommes, nous, en tant qu'humains, et ce que la Terre est. Et manifestement, je le vois de partout aujourd'hui, autour de moi, il y a une conscience d'appartenir à la Terre, d'appartenir à l'univers, beaucoup plus grande chez votre génération qu'il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on pouvait répandre du DDT sur toute la Terre sans du tout penser que ça va rester pendant des dizaines d'années et que ça va être dans tous les poissons du monde. Actuellement, il n'y a pas un seul poisson au monde qui ne contienne pas un peu de DDT, parce que ça ne s'évacue pas. Donc, la conscience de « je mets le verre avec le verre, je mets le papier avec le papier, et ensuite je refabrique du verre avec, je refabrique du papier avec », elle est là, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus présente. Et donc, un monde qui est en corrélation avec notre environnement, forcément, c'est un monde où il va être plus agréable de vivre. Parce qu'il n'y a pas besoin de 9 planètes comme auraient besoin les humains s'ils vivaient à la vitesse et au rythme de consommation des USA. Si on consommait autant que les USA à l'échelle mondiale, il faudrait 9 planètes Terre. Donc c'est clair que, on va droit au mur avec ça, et Moi, j'entends et je reçois que beaucoup d'entre vous en ont conscience aujourd'hui. Et lorsque cet été, je vais aller faire l'invitation de Marion à gauche, une conférence dans le Festival des Verts solidaires, en ayant lu seulement une dizaine de lignes sur le site, je vois que dans les 4 à 5 000 personnes qui sont là, beaucoup ont votre âge et beaucoup ont une conscience beaucoup plus élevée, évoluée de quel est, comment je m'intègre dans ce monde, comment je suis responsable du devenir de la planète, du devenir de l'humanité, chose qui était à des lieux de notre conscience il y a longtemps. Donc l'humanité entière s'élève, hein. Je ne dis pas que vous êtes des facteurs de ça, mais en vérité, vous bénéficiez d'un nouveau terreau, vous êtes des graines qui poussent dans un terreau qui est favorable, hein. Parce que moi aussi je bénéficie de ça avec ma vie de tous les jours, avec ce que je fais, avec, il y en a qui sont ouverts à ça, et puis il y en a qui ne sont pas ouverts à ça. C'est vraiment une question de conscience. Et là, je suis ébahi de voir comment... tu me rappelles son prénom ? Luma Mkaila, ça veut dire ?
Luma Mkaila.
Ça veut dire quoi ?
Luma veut dire lui en portugais. Et Mkaila, c'est le
président de Saint-Michel. Voilà, Luma Mkaila, je suis ébahi de voir que... elle va vers les bougies, qu'elle n'est pas tentée de mettre la main, elle ne renverse rien, elle a froid, elle prend un plaid. Elle a quel âge ? 20 mois. 20 mois. Alors là, voilà. Élevé dans la conscience, un enfant ne va pas refermer sa conscience, ne va pas sombrer dans les conditionnements que son père ou sa mère, ou les deux, pour lui rabâcher à longueur de journée. Hein. Élevé dans la conscience, ça va de pair avec élevé dans la liberté. Ça ne veut pas dire une liberté absolue, parce que si mon enfant prend un couteau, ben je vais faire ce qu'il faut pour que ce ne soit pas dangereux. Mais c'est aussi un acte de conscience que de dire non. Hein, un acte d'amour peut aussi mettre l'autre à distance. Hein. L'amour, ce n'est pas seulement venez, venez, venez. Hein. C'est aussi non merci. Hein. Là, c'est OK. Si c'est pas juste pour moi, ben j'ai le droit de dire non. Donc il y a cette dimension de nouvelle conscience qui peut être invitée à se développer peut-être bien plus vite dans ces groupes parce que vous êtes des miroirs les uns pour les autres et dans un groupe où il y a ça qui est tangible, alors... l'autorisation à être vraie, elle peut être beaucoup plus simple à se donner. Parce que vous voyez qu'en face, c'est déjà là. Hein. Il suffit d'un feu vert dans la pièce pour que tous les feux puissent passer au vert. Hein. Parce que, bon, il n'y a pas de jugement, parce que c'est des choses qui, dont vous comprenez la portée, dont vous comprenez le sens, dont vous comprenez le but aussi. Donc la dimension sexuelle... elle est importante seulement en ce sens où elle nous permet d'être plus libres. Mais une fois que nous avons trouvé une plus grande liberté, nous pouvons la lâcher, hein, parce que ce n'est pas le but. Hein. Je répète, ce n'est pas le but du tantra. C'est un outil et non une destination. Hein. Quand l'énergie sexuelle est libre, ben, je peux m'en réjouir, je peux agir avec sans m'en cacher, sans m'en culpabiliser, sans éprouver de la gêne, sans éprouver de l'inconfort, en la laissant presque neutre, bon, ben, elle fait partie de moi, je l'honore, je la célèbre, mais je me sers de cette liberté pour être plus connecté à moi-même. Hein, c'est à ça que ça sert. Vous ne pouvez pas être vraiment conscient si vous avez peur ou si vous fermez l'énergie sexuelle. Moi, je compare souvent l'énergie sexuelle, le bassin, la zone du bassin, à un robinet. Hein. C'est le premier chakra, les centres d'énergie dans le corps. Lorsque vous ouvrez le robinet d'énergie sexuelle, en l'autorisant, en la libérant, vous laissez l'énergie monter et vous avez plus d'énergie pour aimer, pour être présent, pour être conscient, lorsque vous fermez cette énergie avec les peurs, avec les limites, avec la gêne, la honte, à ce moment-là, vous vous tendez un petit peu, beaucoup, et vous ne pouvez pas être conscient et naturel en même temps. C'est incompatible. Hein. On ne peut pas être libre un peu. On ne peut pas être libre seulement au-dessus de la ceinture. Hein. Ça n'existe pas. Si vous avez une partie de vous qui est tendue, alors pour être libre, vous êtes invité à la regarder et à trouver un moyen de la remettre à l'état naturel. Il ne s'agit pas d'inventer des choses. C'est de retrouver ce qui est naturel dans cet endroit-là. Au niveau des structures et au niveau des prix, je vous dirai quand même quelques petites choses. J'ai conscience qu'un groupe de personnes de votre âge a peut-être des moyens un peu plus limités. Donc je ferai un tarif qui est la moitié du tarif que je fais aux groupes normaux, aux groupes ordinaires. Une soirée de 4 heures, par exemple vendredi 8 février, 19h-23h, il y a des personnes qui viennent faire une soirée tantra. À propos du oui et du non, hein, le thème c'est célébrer le oui et oser affirmer le non. Donc c'est très clair, hein, là, ce thème-là, faire la différence entre les deux. Et ça coûte 30 euros pour ces gens-là, donc c'est de 18 à 98 ans, hein, en gros, la plage. Et en vérité, 18 ans, c'est seulement pour des raisons légales, parce que vous êtes mineur et que c'est vos parents qui doivent décider avant cet âge-là. C'est pour ça que je ne vais pas démarrer, mais en vérité, elle fait déjà du tantra, hein, cette jeune demoiselle-là. Parce que soyez détendu et naturel, il n'y a pas besoin de lui apprendre. Elle le sait et elle le fait. Le chat aussi, en fait. Vous êtes à l'origine tous des tantricas qui savaient en faire, mais on vous a appris autre chose par-dessus. Et ça a voilé peu à peu vos connaissances dans ce domaine. Donc pour vous, ces soirées-là, c'est 15 euros. Lorsqu'elles seront dans le cadre du tantra jeune, ou si vous voulez vous intégrer à un groupe qui est ouvert à tous, dans lequel vous pouvez aussi vous intégrer. Puisque je dis, c'est de 18 à autant qu'on veut, je ne pose pas de limite supérieure. Tant qu'il y a la volonté de participer, c'est suffisant. Et en vérité, même quelqu'un qui a 90 ans peut être très jeune dans sa tête. Hein. L'âge du corps, ce n'est pas l'âge de l'esprit, ce n'est pas la même chose. Et quelqu'un à 25 ans peut être vieux dans sa tête parce qu'il a des idées très, très arrêtées, très figées. Clair. Donc voilà, tous les prix sont divisés par deux. Alors les structures que je donne, c'est en premier des soirées de 3 heures. Donc on verra pour les journées, les horaires. Donc c'est 19h30, 22h30 pour la plupart. Des soirées de 4 heures, 19h, 23h. Ensuite, il peut y avoir des demi-journées pour explorer plus parce que on explore une intimité avec soi grâce à l'intimité avec l'autre. Hein. C'est l'intimité. Oh, il y a eu un petit. Donc on explore l'intimité avec soi grâce à l'intimité avec d'autres. Et donc il y a des après-midi, 15h, 21h, où il y a 6 heures pour approfondir. Hein. Si vous vous sentez à l'aise en 3 heures, en 4 heures, en 6 heures, on fera encore plus de choses, plus profondément. Et après, on passe aux journées complètes. Sont de 10h du matin à 21h, donc là il y a vraiment du temps, ou de 10h du matin à 23h le samedi quand je fais des journées plus intensives, et là on va vraiment profondément. Mais plus il y a de temps et plus c'est possible d'entrer dans la confiance, dans sa propre sécurité intérieure. C'est pour ça que dans l'initiation, on fait connaissance, c'est soft, il n'y a pas de choses très impliquantes. On va faire un exercice d'initiation juste après ça, qui va être relativement cool, hein, je dirais, soft. Et dans les journées, dans les demi-journées, on explore un peu plus l'implication. C'est quoi l'implication? C'est s'autoriser à être vrai, dans des domaines plus intimes qu'on ne révèle peut-être pas autant d'habitude avec d'autres. entrer dans sa vérité par la parole, un peu plus profondément, dévoiler des choses, relativiser des peurs, parler des peurs avec conscience, voilà, des choses où l'invitation, ce sera d'être de plus en plus vrai, d'être de plus en plus intime de vous à vous. Voilà. Ce qui est important à dire, c'est que dans chaque groupe, il y a un cadre qui est posé, et ce cadre, il implique quelques règles très simples, dont le seul but, c'est que vous vous sentiez en sécurité et en confiance. Donc la première règle, c'est respectez-vous, vous pouvez dire oui ou non à tout moment, vous pouvez faire ou ne pas faire un exercice à tout moment. C'est un exercice où vous êtes foncièrement libre, d'accepter ou de ne pas accepter l'exercice ou que quelqu'un en particulier le fasse avec vous. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu avec l'autre dans ces groupes, c'est-à-dire ce ne sont pas des groupes pour rencontrer quelqu'un, ce n'est pas des groupes de rencontres, mais en vérité, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est vous-même, c'est la seule personne que vous pouvez rencontrer vraiment dans ces groupes, mais bien sûr l'autre va vous aider à cette rencontre avec vous-même. Quand je dis il n'y a pas d'enjeu, s'il n'y a pas d'enjeu à l'extérieur de vous, il n'y a pas d'objectif de se faire un petit ami, une petite amie, un amoureux, une amoureuse, parce que quand vous faites ça, c'est plus du tantra que vous faites, c'est autre chose. Vous allez plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, et tant que vous n'avez pas remis de l'amour ou remis de l'autorisation à l'intérieur, aller à l'extérieur, ça ne résout rien dedans. C'est d'abord le chemin intérieur qui porte ses fruits à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'enjeu avec l'autre. Ensuite, on dit des choses confidentielles, rien n'est répété à l'extérieur parce qu'on est dans l'intime, c'est tout à fait normal. Voilà, il y a 5 ou 6 règles, je ne me rappelle pas toutes les règles de tête, mais ce sont des règles desquelles je suis le garant. Entre autres, il n'y a jamais d'acte sexuel, on peut jouer avec la sexualité, mais il se passe jamais d'acte sexuel et jamais d'acte violent. Donc ces deux choses-là sont hors du cadre du tantra. On n'aboutit pas et on n'exprime pas la violence sur quelqu'un, même si on ressent de la violence qui peut être juste, mais on peut taper sur un coussin plutôt que sur une personne. Voilà, c'est des règles très simples, mais qui visent à installer une certaine sécurité dans ces groupes. On ne peut pas détendre des peurs si on se sent en danger, si on ne se sent pas en confiance, si on ne se sent pas en liberté, si on ne se sent pas en sécurité intérieure. Et puis, il y a aussi, pour aller encore plus loin, des week-ends complets où on est en résidentiel, c'est-à-dire du matin au soir et même pendant la nuit, on est en continuité, en présence du groupe, du samedi matin au dimanche soir. Et là, c'est une plongée, c'est le grand bain, disons. Le grand bain, ça ne veut pas dire que c'est dangereux ou risqué, mais c'est plus impliquant. Comprenez bien que l'implication, c'est une descente en vous-même, dans votre intimité. Ce n'est pas une exposition aux autres. C'est vraiment dans votre intériorité que vous plongez. Qu'est-ce que j'ai pas dit ? Laquelle ? La tienne ou la...
Pour motivation personnelle.
À faire ça ?
Ouais.
Très, très bonne question. Merci Dora Désolée. Tu aurais manqué si tu n'avais pas été là. Alors ma motivation, c'est de... Parce que j'ai connu cette voie, j'ai connu une extase il y a 13 ans dans mon premier groupe de tantra. Vous voyez que ce n'est pas forcément une question de durée. Dans mon premier groupe de tantra, j'ai connu une extase, une félicité qui a un bonheur tellement grand que ça a duré 3 mois. 3 mois de... C'est merveilleux. 3 mois dans lesquels je me disais tout est possible. Et simplement parce qu'une femme m'a dit non. Je ne veux pas le faire avec toi. Mais à ce moment-là, je suis allé voir une autre femme en me disant, bon, bah, elle ne veut pas, donc je vais en voir une autre. Toi, tu veux ? Oui, ok, on fait ensemble. J'ai réalisé un petit peu plus tard que j'étais devenu libre, mais que je ne m'en rendais pas compte. Au moment où j'ai réalisé ça, quelque chose qui a basculé en moi. c'était assez émouvant, c'était une plongée dans le grand bain de qui je suis. J'ai ressenti un grand bonheur et j'ai laissé s'ouvrir tout le féminin en moi d'un seul coup. Ce qui fait que toute ma vie a basculé dans autre chose, dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et donc, j'ai entendu ce message comme tu voulais savoir ce que c'est que le tantra, ben voilà un échantillon, maintenant va et enseigne-le. Donc ma mission, c'est ça. C'est de, après avoir goûté à ce bonheur-là d'être libre, à ce bonheur-là qui sous-tend à l'intérieur que tout est possible, si je suis dans cet état-là, ma mission, c'est devenu va porter ce message dans le monde. C'est tout. Hein. Et donc moi, mon but, ma motivation, c'est de créer des espaces où la conscience grandit pour que ça puisse allumer d'autres feux ailleurs et que la conscience de la planète, l'amour sur la planète, soit de plus en plus élevé. C'est ça, mon motivation. Donc la liberté, ça pourrait aussi et devrait être la motivation de chacun. Hein, parce que chacun a envie d'être plus libre. Si vous vous arrêtez 5 secondes et que vous posez la question, c'est évident que vous avez envie d'être plus libre. Hein, mais c'est vous qui répondez. Et vous avez envie de voir tout ce qui vous empêche de l'être. Surtout parce que la liberté, elle est déjà en vous. Hein. Oui.
Une autre question, la fréquence avec laquelle tu peux proposer des groupes tantra jeunes.
Oui, en vérité, j'en sais rien. Tout est nouveau là, même pour moi. Ça va dépendre bien sûr de mes disponibilités, ça va dépendre du répondant qui est en face, parce que je mets une limite quand même au nombre de personnes avec lesquelles je maintiens un groupe, c'est 8 personnes. Ça pourrait être moins, mais à 8, il commence à y avoir une certaine synergie. Hein. Et puis même pour des raisons de disponibilité et puis économique, 8, c'est le nombre que j'ai trouvé juste pour moi. Donc, moi, je dirais, s'il y a du répondant, je suis au service en fonction de ce que je peux dans mes disponibilités. Hein. Donc, je fais beaucoup de choses. J'enseigne la méditation active, qui est aussi une forme de tantra. Si vous voulez connaître le tantra dans une forme qui n'est pas du tout impliquante parce qu'il n'y a aucun contact ni rapport avec d'autres. Alors il y a des petits papiers sur la méditation active qui a été introduite par Osho. Ça coûte 5 € et ça a lieu pratiquement tous les mercredis sur Paris 20e. Hein. Et c'est une manière d'activer l'énergie pour se sentir plus vivant, pour nettoyer. Mais c'est moins impliquant que le tantra en groupe parce qu'il n'y a pas d'interaction. Donc ça peut être un bon moyen de commencer soft, mais ça peut quand même avoir beaucoup d'effets sur vous. Donc, moi je dirais que s'il y a au moins une soirée de 3 heures par mois, ce qui est le rythme du tantra actuel ouvert à tous, ça peut être un bon point de départ hein, pour ces groupes-là. Dans la mesure où ils sont maintenus, je les maintiendrai, hein, la mesure où je ne les annule pas au fur et à mesure. Et puis, de temps en temps, une après-midi, peut-être une tous les 2 mois, ou je ne sais pas, ou une tous les mois, et puis de temps en temps, des journées complètes. Hein. Mais voilà, il y aura quand même une présence, hein, il y aura quand même un agenda, il y aura quand même un calendrier dans lequel choisir pour que vous puissiez répondre à ces appels. C'est OK ? Pour l'instant, je ne sais pas. D'ailleurs, j'envisage aussi de vous demander de m'aider. C'est-à-dire à trouver les jours, à trouver les horaires, à trouver les plages, la fréquence, etc., qui convient à vos contraintes à vous, qui sont peut-être différentes de celles des autres. D'autres choses à demander ? Mais ça peut être pratique, hein, ça peut être des choses pratiques. Donc les groupes sont en parité, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hommes que de femmes. Et lorsqu'il n'y a pas de parité, par exemple, il y a 6 femmes qui s'inscrivent et il y a 4 hommes déjà inscrits, ben les deux dernières femmes sont en liste d'attente jusqu'à ce qu'il y ait assez d'hommes, hein, de manière à ce qu'il y ait le même nombre de femmes. Parfois, ça fait que certains ne participent pas.
Moi, j'aurais une question plus générale. général, là je remarque qu'on est en fait plus de femmes, et plus de femmes à être venues spontanément, je veux dire, à être venues pas parce que quelqu'un qui en fait déjà nous en a parlé et nous a ramené ici, mais en gros, enfin, toutes les femmes venant ici, on est venues quasiment toutes spontanément, toutes seules, on va dire.
Ouais.
Et je remarque que dans les groupes ouverts à tous, il y a beaucoup plus d'hommes. Et les femmes sont beaucoup moins présentes.
Oui.
Est-ce que tu as une explication, une idée là-dessus?
Moi aussi, je me pose la question. Moi aussi, je me pose la question. La question, c'est pourquoi dans les groupes que j'organise, il y a souvent plus d'hommes que de femmes. Il s'avère que chez un homme, il y a généralement moins de peur avec le corps que chez une femme. C'est pas vrai pour chaque homme. Hein. Je ne dis pas de généralité, mais c'est quelque chose que je peux constater. Il s'avère aussi que les sujets de l'évolution de la conscience et que les sujets comme poser des limites parlent plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, par exemple, le groupe du vendredi 8, il s'agit de... Le thème, c'est poser des limites. Hein, et là, il y a plus de femmes. Et donc, voilà. Il y a certains groupes où... il y a plus de peur par rapport à l'énergie sexuelle qui fait que certaines femmes sont en retrait. Je le déplore parce que ce n'est jamais un but. Alors que les hommes, ils vont plus volontiers, avec moins de peur. Et puis, certains enjeux peuvent, malgré le cadre, peuvent quand même être présents. Hein. Le cadre, c'est une série d'intentions. Mais ça n'empêche pas que chacun est ce qu'il est. Si on était tous 100% conscients, il n'y aurait pas besoin de groupe de tantra. Donc il y a aussi des choses à transformer. Donc dans les groupes où la direction majoritaire, c'est élever la conscience, méditer, avec moins de contact corporel, les femmes sont plus présentes, répondent plus à l'appel. Et dans les groupes où la dimension est plus sensuelle, corporelle, alors les hommes sont plus à l'aise et répondent plus à l'appel. Je suis en train, pour ma part, d'apprendre ces enseignements pour rééquilibrer les groupes, hein, pour gérer la proportion entre ces différentes composantes. Et il y a des formes de tantra qu'on appelle tantra blanc, qui est axé sur la méditation, mais qui ne considère pas l'énergie sexuelle comme un outil. Bon, axé sur la méditation, les pratiques... qui peuvent être corporelles mais non sexuelles. Et puis il y a tantra rouge qui est le tantra d'Osho, celui-là, qui considère que l'énergie commence là et ensuite monte dans le corps. Les deux sont des voies qui ont le même but, hein, mais qui emploient des moyens différents, des voies différentes pour se manifester. Donc, en ce moment, je suis en train de faire ce que moi j'appelle du tantra rosé. Alors, c'est comme le vin. Hein, il y a vin blanc, vin rouge. Et quand on peut aussi avoir du vin rosé qui n'est ni l'un ni l'autre, ou qui est un mélange des deux. Le tantra rosé, c'est... on s'apprivoise pendant tous les exercices d'une journée jusqu'à la pause de 17 heures. Et lorsque on a suffisamment été en sécurité avec soi-même, avec les autres, lorsqu'on s'est apprivoisé, le dernier exercice du groupe, ou un des derniers, nous invite à nous exercer sur l'énergie sexuelle. Donc, je mets une part plus grande au tantra blanc avant la pause. Ce ne sont que des tentatives, je n'ai pas de vérité, mais pour vérifier comment ça peut naturellement équilibrer la part d'homme et la part de femme. En vérité, je ne sais pas. Peut-être il faut que je fasse un tarif moins cher pour les femmes, un tarif plus cher pour les hommes, parce que pour certaines, c'est aussi économique. Il y a beaucoup de facteurs. Ce que je sais, c'est que dans la biodance ou dans les autres dimensions de développement personnel, c'est l'inverse. Il y a plus de femmes que d'hommes. Mais dans la plupart des ateliers de développement personnel au sens strict, qui n'inclut pas l'axe sexuel, il y a aussi une majorité de femmes. Donc il y a quand même des choses à, pour moi à apprendre, hein. Même si je reste vraiment convaincu que dans cette exploration de l'énergie sexuelle, il y a beaucoup de liberté à trouver. Peut-être c'est là où il y a le plus de peur, chez les femmes en particulier, qu'il y a le plus de liberté à trouver, mais en parallèle avec une sécurité qui va de pair, c'est-à-dire je ne me mets pas en danger quand j'explore ça, ce qui est la moindre des choses. Oui.
À ce que tu viens de dire, je ne me mets pas en danger, je mettrais juste un petit bémol. Certes, il y a un cadre sécurisé, etc. Mais pour avoir fait quelques soirées, journées, etc., j'ai quand même remarqué qu'il y avait des hommes qui arrivaient avec un enjeu très fort posé sur le corps féminin, sur la femme qui allait avoir en phase 2. Un enjeu, je dirais même une intention, enfin qui s'approchait plus d'une intention sexuelle que d'une intention d'expansion de la conscience ou d'une intention de faire grandir sa liberté. Mmh. Et pour moi, pour ma part, étant dans la position de femme, ce genre d'attitude que je perçois à 100% et en 3 minutes fait que de toute façon, déjà dès le départ, ma liberté, je vais avoir des difficultés à la laisser s'exprimer. Dans un cadre où je ne me sens pas totalement sécurisée, où je ne peux pas être totalement moi-même, sans voir dans le reflet de l'homme en face de moi un désir qui est là, et du coup un désir sexuel. Donc ma question est là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ce genre de personnage, est-ce que ce genre d'attitude, tu les perçois? Et est-ce que dans ces cas-là, tu envisages de refuser l'accès à certaines personnes qui justement ne sont pas dans la démarche du tantra?
Excellente question, mais il y a beaucoup de réponses à ta question, hein. La première réponse, c'est que le tantra vise à développer la conscience. Donc par nature, elle n'est pas encore développée. Complètement, elle a besoin encore de se développer. Et comme je disais, tout ce qui est développement de la conscience est plus naturellement perçu par la femme que par l'homme. La femme, dans le tantra, a un rôle d'initiatrice. C'est-à-dire, c'est elle qui va dire « Oui, d'accord, tu peux venir. Non, merci, pas avec cette énergie-là. » Donc, l'endroit où tu ne dis pas « Non, merci » lorsqu'il y a une intention qui ne te convient pas, c'est l'endroit dont tu es responsable. Et c'est l'endroit aussi où l'homme a à t'apprendre quelque chose. Il t'apprend, le yang, il t'apprend « S'il te plaît, dis-moi non quand mon énergie n'est pas alignée. Si tu ne dis pas non, ça veut dire que tu as dit oui. Et donc, j'y vais. Hein. » Donc ça, c'est l'enseignement que tu as attiré des, entre guillemets, « manques de conscience ». Et après, on peut dire que peut-être que l'homme exprime sa liberté plus naturellement, plus facilement, avec moins de peur à propos du corps, et que il y a des barrières, peut-être qui surgissent plus facilement pour protéger ce que moi j'appelle le château fort, hein, du corps, chez certaines femmes, pas toutes bien sûr. Donc ton rôle à toi, c'est d'accueillir cette liberté qui s'exprime en face, parce que l'enjeu c'est aussi d'être libre, aussi pour l'homme, hein, et de lui donner un cadre qui dit jusque là ok, au-delà de ça non. Et autant de fois qu'il le faut. Et quand tu fais ça, tu muscles, entre guillemets, ta conscience de « ceci est ma limite ». L'endroit où tu le laisses allègrement entrer dans le territoire dans lequel il ne devrait pas entrer, intime, t'appartient. Et donc, c'est aussi utile. Donc, ces hommes, même si ça peut te procurer des expériences désagréables, reflètent une partie de toi qui a besoin encore de s'affirmer pour les maintenir à distance. Et donc, lui, il t'aide à te communiquer une énergie d'affirmation. Le non est aussi une affirmation. De ça, je ne veux pas. Et toi, tu l'aides à s'aligner en disant, écoute bien la déesse, écoute bien que là, tu en fais trop, que là, tu n'es pas connecté à ta conscience, mais c'est un peu plus pulsionnel. Et donc, je te remets à ta place. Et là, tu es la déesse qui donne un enseignement au Dieu, à l'homme. Pour ça, je dis, il y a beaucoup de réponses, et on pourrait parler longtemps de ça. Donc, les femmes ont un rôle important quand c'est nécessaire, parce que ce n'est pas tout le temps nécessaire, quand il y a des comportements qui peuvent sembler inconscients ou pulsionnels. Mais attention, hein, parfois vous allez dire c'est pulsionnel, alors que ça va juste masquer le fait qu'à cet endroit, j'arrive pas à dire non. Hein. Ou ça peut être les deux à la fois. C'est un peu imbriqué, c'est un peu complexe. Il n'y a pas une seule réponse à donner. Mais moi, je suis là pour qu'il y ait le moins de pulsions possible et rappeler le cadre. Hein. Le cadre, c'est tout ce que je le fais pour moi et pas pour l'autre ou avec l'objectif de l'autre. Voilà. Et lorsque une personne dérape un peu, déborde un peu, alors moi qui suis plus conscient, j'ai la charge et la responsabilité de dire « Oh là, oh là, pas plus loin, s'il te plaît. » Maintenant, c'est ma limite. Hein. La personne qui insisterait, je dirais, je mets le conditionnel, au-delà du non que vous posez, elle est complètement hors cadre. Elle est exclue du groupe. Parce que ce cadre-là, j'en suis le garant. C'est ça la limite que je pose. Hein. Lorsque tu as dit non, on ne peut pas te forcer, malgré le non. On ne peut pas aller malgré ton positionnement. Oui.
Je voudrais témoigner aussi par rapport à ça parce que moi en fait c'est. Je pense que c'est les situations qui m'ont le plus fait évoluer, justement. C'est là où, quand justement je me suis retrouvée face à des hommes qui posaient un enjeu énorme parce que tout simplement ils en sont là, bah d'une, moi ça m'apprend à me respecter et à dire non tout de suite. Et en plus c'est eux qui vont encore plus évoluer quoi. Parce que justement, ils posent ces enjeux, et ben ils sont là pour ça, justement, pour apprendre à être présent et à lâcher prise et à être avec eux-mêmes. Et du coup, au début, franchement, j'ai eu du mal à affirmer mon nom et ça n'a pas été des expériences combattantes pour autant. Hein. Au contraire, j'ai su y repenser et du coup, progresser petit à petit. Et aujourd'hui, je me sens en totale sécurité et en plus, je vois que. Bah, les hommes avec qui je fais cet exercice et qui ont un enjeu au départ, bah, plus je leur dis non, plus ils comprennent en fait et ils viennent me remercier après d'être vrai et, parce que ça leur fait comprendre des choses parce qu'ils en ont besoin de ça, quoi, ils s'en rendent compte.
Alors pour les femmes, trouver sa limite et la faire respecter, c'est un enjeu majeur dans les groupes et ça parle aussi de liberté. Parce que si on prend le cas hypothétique où il n'y aurait que des hommes conscients, sachant qu'ils travaillent pour eux, ne débordant jamais, qui ne vous invitent jamais à vous positionner dans le non, vous allez sortir dans le monde et cette faculté à dire oui, à marquer votre territoire ou à dire non, pas plus près, elle existe aussi dans le monde. Elle est à développer pour développer la liberté. Hein. Et donc, je ne peux pas être autonome si je ne sais pas dire non. Hein. Et je ne peux pas être autonome si je ne sais pas reconnaître et célébrer mon oui. Donc, c'est des axes qui sont peut-être plus importants pour les femmes. Pour les hommes, l'aspect, c'est qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'en suis conscient? Et quel est mon vrai but? Hein. Est-ce que je diverge ou est-ce que je reste aligné sur le cap? Et ce qui donne la direction, c'est vous, c'est les femmes qui donnent la direction, qui rappellent aux hommes la direction des groupes. Quand vous dites non, vous enseignez beaucoup de choses à un homme. Parce qu'un homme pense que c'est oui, comme il a une logique binaire, si c'est pas non, ça veut dire que c'est oui. Hein, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas d'entre les deux. C'est, allez, feu vert. Mais quand tu dis non, 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 hola, hola, pas si vite, ou alors, d'accord, mais d'une autre manière, plus doucement, avec plus de tact, avec plus de lenteur, de douceur. Ah ouais, d'accord. C'est un univers nouveau pour un homme qui est entièrement yang. Hein. Tout le monde ne l'est pas, hein, bien sûr. Un homme qui n'a pas développé ça en lui, va apprendre que une femme qui dit non, ça ne veut pas dire que c'est définitif, ça veut dire oui mais pas comme ça, ou alors non mais pas comme ça, ou oui mais pas si vite, oui mais d'une autre manière, d'une manière que je peux accepter de laisser entrer en moi. Et donc il y a entre guillemets une élévation de conscience que vous invitez chez les hommes avec ces noms là et ces oui qui est importante, parce que en l'absence de ça, l'homme peut complètement ignorer que ça peut être tout en nuance, hein, le fait d'aborder une femme et de... parce que le sexe est très actif, hein, chez l'homme, donc ça, il n'y a pas besoin de le réveiller, il est déjà réveillé. Voilà, donc toutes les personnes qui ont besoin d'affirmer leur stature, leur détermination, leur territoire, le oui, le non, c'est des groupes excellents pour trouver des occasions pour le faire avec le moins de risques possible. C'est pas définitivement sans risque, c'est impliquant, mais en même temps, risques et bénéfices sont associés. Hein. Voilà. On prend encore 5-6 minutes, puis après on va faire l'exercice, parce que ça va être la fin de la soirée aussi. S'il y a encore une ou deux questions.
On ne prend pas une petite pause là. On commence l'exercice.
On s'arrêtera à 8 heures par contre. Hein. Ça, on peut la faire après, on peut la faire avant. Vous voulez une pause?
Moi j'en ai.
S'il n'y a pas de questions, c'est ok. Hein.
C'est une question que je vais retrouver, cette félicité qui a duré 3 mois.
Ouais, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Merci. J'ai donné une autre conférence, on m'a posé la même question. En fait, la réponse est assez longue. Hein. Mais je vais essayer de la synthétiser. C'est comme si j'ai eu un passage d'euphorie, un passage... j'ai vécu ça comme si une brèche s'était ouverte dans l'univers pour me montrer une lumière éclatante et que c'était un échantillon que la brèche s'est refermée. Mais c'est pas comme si c'était moi qui avais refermé les choses. Tout d'un coup, j'ai eu moins conscience de ça et je suis retourné dans une vie un peu plus normale. Mais la liberté est restée, hein. C'était pas l'euphorie et l'extase, mais la liberté, y compris la liberté avec les femmes, était... Et ce que j'ai dit hier, dans le groupe qu'on a eu hier, c'est que je suis venu à ce groupe avec une question, c'était comment séduire les femmes. Et quand j'en suis reparti, après tout cet événement qui m'est arrivé, j'avais pas de réponse à la question, mais j'avais plus de questions. Mmh. Tu vois, j'avais pas trouvé de réponse, mais la question s'était évaporée parce qu'elle était plus pertinente. Et donc c'est ça, le tantra peut dissoudre les questions qui ne sont pas relevantes, hein, qui ne sont pas des vraies questions. Parce qu'il n'y a pas besoin de séduire les femmes, en vérité. Il y a besoin d'être moi-même. Et quand je suis moi-même, je suis magnétiquement attirant, parce que être soi-même, c'est attirant, hein, si vous ne limitez pas qui vous êtes. Alors on fait 5 minutes, hein, de pause jusqu'à 19h30. Voilà, fin de la conférence pour tous les joyeux internautes qui nous ont suivis. À très bientôt dans une réunion ou un groupe prochain. À suivre sur internet, êtreplus.fr.